RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules qui vous offrent un petit séjour sensation forte à l'Europa Park Resort à côté de Strasbourg, dans le top 3 des parcs d'attractions les plus visités en Europe. Vous avez un séjour de 2 jours pour 4 personnes avec les grands 8. Pour ceux qui sont devant RMC Story, je peux vous dire que ça secoue si vous y allez. Mais allez-y, faites-vous plaisir, c'est offert. C'est pour vous. Vous m'envoyez RMC par SMS au 732-16, RMC par SMS au 732-16. Vous avez le séjour dans l'hôtel 4 étoiles. Vous avez les petits déjeuners pour 4. Et ensuite, vous vous amusez, vous vous éclatez. Vous avez les entrées. Et en plus, vous pouvez accéder au parc aquatique d'Europa Park, rue Lantica. Donc, l'Europa Park, c'est pour vous. Vous m'envoyez RMC par SMS 732-16. Vous êtes tiré au sort. Et vous passez en plus tout à l'heure en direct dans les grandes gueules. Allez, on enchaîne. Nouveau sujet de discussion.
RMC, les grandes gueules.
Je voulais qu'on parle des menaces sur le Parc des Princes. Je vais vous faire une petite confidence. Hier au soir, j'ai reçu un message d'un copain qui me dit, par SMS, « Tu vas au parc demain ?» 3 points d'interrogation. Je lui dis, tiens, c'est sympa, il y a quelqu'un qui me demande... Et puis après, j'ai réalisé pourquoi il me demandait, parce qu'on a échangé, parce qu'il y a l'inquiétude. Pourquoi ? Parce que, vous l'avez entendu, Gérald Darmanin a annoncé le renforcement des mesures de protection autour du Parc des Princes ce soir, parce qu'il y a le quart de finale entre le Paris Saint-Germain et Barcelone. Alors, c'est vrai que c'est sur les réseaux sociaux de l'État islamique de Daesh qui menace en fait les quarts de finale de la LDC d'une manière générale. Hier, il y a eu Madrid, mais il menace aussi l'Emirates Stadium. Notamment, c'est le groupe islamique au Khorasan. Vous savez, c'est celui qui a revendiqué l'attentat de Moscou. Et puis, il y a toujours cette rhétorique que l'on connaît avec marqué « Tuez-les tous » de manière... Il y a plusieurs messages comme ça qui sont partis de manière à ce que ça infuse dans les esprits les plus perméables. Et l'État islamique, dans ces cas-là, espère qu'il y en a un qui passera à l'action. Alors, voilà, je voulais savoir ce que vous en pensiez au 32-16. Peut-être que vous devez, vous allez peut-être aller au stade. C'est à vous de m'en parler. Écoutez le spécialiste justement des renseignements et du terrorisme, Monsieur Brizard.
Il y a une volonté de la part de cette organisation d'inciter les individus, des sympathisants à passer à l'acte, y compris en leur prodiguant des conseils opérationnels. Hier soir, par exemple, le dernier message sur les stades consistait à dire « si vous ne pouvez pas rentrer à pied dans les stades, attaquez-les par les airs, utilisez des drones d'attaque ». C'est une organisation qui a la capacité de mener à la fois un terrorisme d'inspiration et un terrorisme de direction, c'est-à-dire projeté. Toutes les mesures, le plus possible de mesures ont été prises. Après, le risque zéro n'existe pas, c'est une certitude. Effectivement, si des individus veulent pénétrer par la force, ils peuvent le faire. Mais...
Alors, je ne sais pas, dites-moi, est-ce que ça vous inspire ? Dans quel état d'esprit ça vous met, ce soir avant d'aller au stade ? Est-ce que c'est même peur sur les stades de manière générale ? Alors bien sûr, il y a la perspective des Jeux Olympiques. Je rappelle que depuis Moscou... On est passé à l'état maximal de vigilance, qui est vigilance alerte attentat. Antoine Diers.
Oui, alors pour ma part, je ne sais pas si je suis plus inquiet après ce message, parce qu'en réalité, je pense qu'on vit sous la menace terroriste tous les jours, depuis longtemps. J'ai une forme d'inquiétude, c'est peut-être la capacité de nos gouvernements à nous protéger. Moi, je pense que nous vivons face à une menace terroriste. Nous devrions prendre des mesures exceptionnelles. On nous dit régulièrement qu'il y a des attentats déjoués. Moi, je pense qu'on ne va pas assez loin. Ou alors, je ne sais pas ce qu'on fait, mais je pense qu'on doit aller chercher, y compris à l'étranger, par nos unités spéciales, etc.
C'est ce qu'a fait François Hollande.
Exactement.
Quand il était président de la République, il avait donné le go pour la liquidation aussi de bon nombre de terroristes.
Moi, je pense qu'on ne peut pas vivre sous cette menace constante et qu'il est donc de notre responsabilité d'aller les détruire où qu'ils soient. Et donc, au-delà de tous les militaires fabuleux qui font du sentinelle partout en France avec leurs armes longues, j'espère que nos dirigeants prennent des mesures pour aller détruire le mal à la racine. Et moi, je soutiendrai ce genre d'action.
Joël ?
Oui, pareil qu'Antoine. Et je limite pas...
Tu avais un copain qui te disait « je vais au stade ce soir ».
Non.
Ah voilà, c'était
non,
ça.
Non, c'est moi, ce que j'avais prévu.
Antoine irait, toi ?
Non, parce que je me souviens quand même que les attentats de 2015... Ça a commencé devant le Stade de France, si je me trompe pas. Et donc, les stades sont menacés. Et je sais que je suis allée après, je suis allée au Stade de France voir un match de l'équipe de France, peut-être un ou deux ans après. J'étais pas hyper, hyper tranquille.
Oui, mais pourtant, tu sors. Tu fais partie des gens qui sortent.
Oui,
parce qu'il y a eu les terrasses.
Oui, complètement.
Il y a eu les salles de spectacle.
Je crois que c'est ça.
Je sors et je vais pas arrêter de sortir, mais spécifiquement, là, me dire que, tu sais, j'ai regardé ce qui est arrivé à Moscou et dans d'autres attentats, on a toujours ce truc de « on vous a prévenu, mais vous n'avez pas écouté ». Donc moi, c'est vrai que ça me reste un peu en tête. C'est que si on me dit qu'il y a des menaces en ligne qui visent cette compétition-là, j'annulerai. Honnêtement, j'annulerai.
Ah ouais, mais ils ont gagné dans ces cas-là, quoi.
Oui, je sais bien, mais je veux pas être de celles qui disent on t'avait prévenu et t'y allais quand même parce que tu veux jouer les gros bras. Bah non, franchement, j'irai pas. Mais par contre, la menace, je pense qu'elle est pas limitée au stade. Enfin, c'est pas parce qu'ils nous disent que c'est sur les stades que ça peut pas être sur une terrasse, que ça peut pas être dans les transports, etc. Donc la menace, elle est un peu partout. Donc évidemment, je vais pas couper tout mes déplacements.
C'est parce qu'il faut frapper s'ils incitent à frapper, c'est frapper des moments forts, des moments symboliques, qui sont en plus un peu des moments où les forces de l'ordre sont déployées, si tu veux, dire, regardez, on peut frapper où on veut, quand on veut, malgré vos dispositifs de sécurité.
Je crois qu'on doit, je sais pas si ça avait arrêté, mais en tout cas, je crois qu'on doit, comme le dit Antoine, reprendre vraiment des expéditions, des opérations extérieures, parce qu'en fait, on voit bien que c'est un monstre qui repousse. C'était Al-Qaïda.
Oui, c'est venu de l'intérieur.
C'est devenu l'État islamique. Et maintenant, c'est le Khorasan. Donc, en fait, ça, même, je veux dire, géographiquement, on n'est pas tranquille parce que maintenant, on est plus passé à l'est vers la Tchétchénie, des choses comme ça. Donc, en fait, on n'est jamais tranquille.
Oui, mais Joël, regarde, que ce soit Samuel Paty ou le professeur Bernard, c'est pas de l'extérieur, hein.
Antoine,
c'était de l'immigration, mais c'était des gens qui étaient quand même sur notre sol. En plus, qui étaient surveillés. Donc, il y a eu des ratés, mais ils étaient là. C'était des cerveaux qui ont été, l'idéologie mortifère a infusé, et puis ils y sont allés. Ouais. De manière individuelle, quoi. Il n'y a pas eu d'opération extérieure.
C'est exactement ce qui est en train de se passer, hein. Je pense qu'ils incitent, ils nomment des cibles, juste pour ne plus avoir à faire toute l'organisation, quoi. À un moment donné, balancer des cibles sur les réseaux sociaux, ça veut dire que les gens, ils se prennent en main pour faire des attentats. Après, moi, j'ai écouté Darmanin ce matin, là, en allant à la gare. Je suis un peu d'accord avec lui. Ne nous focalisons pas plus que ça sur ces matchs-là, quoi. Le fait de dire viser ces matchs-là, est-ce que c'est pas aussi une façon de détourner notre regard pour aller ailleurs, quoi. Quand même à ça. Après, derrière ça, sur les OPEX que vous avez tous les deux appelés de vos voeux, là. C'est quand même un truc hyper dangereux pour les militaires français. Le font, c'est leur métier, il n'y a pas de problème.
Et c'est leur métier. Le disait Antoine, les forces spéciales sont là pour ça.
Ils sont là pour ça. Et qu'on leur en fasse faire, c'est tant mieux. Mais j'ai quand même un peu l'impression que le truc, c'est lié à je ne sais pas combien de têtes, là. Hein. Chaque fois que t'en coupes une, il en repousse deux, quoi. Hein. Et je pense que je ne suis pas sûr que d'aller tuer tous les dirigeants à un instant T, ça ne fait pas en sorte que ceux qui arrivent derrière sont encore plus déterminés et encore plus.
Ça ne se passe pas nécessairement avec des hommes sur place, c'est-à-dire que par notre renseignement numérique et technologique, on doit pouvoir trouver des traces de l'origine du message. Et on envoie des missiles balistiques, on ne sait pas d'où il partira, ce sera le nôtre, mais on ne le dit à personne, et on va détruire toutes les cahutes, les maisons, etc., où on a des informations comme quoi il y a des terroristes. Et vraiment, la France ne peut pas être menacée comme elle l'est. On apparaît extrêmement faible, et donc on doit réagir.
Et pourquoi est-ce qu'on est menacé ?
En même temps, Antoine, ta théorie, elle ne vaut pas, parce que le dernier qui a subi un gros attentat, ce n'est pas un faible quand même, quoi. Hein. Ouais. C'est pas un faible. Il a des moyens, il leur a fait la guerre, il les a butés dans certains pays, et puis quand ils ont voulu tuer 130 personnes à Moscou, ils l'ont fait, quoi.
En l'occurrence, il a baissé la garde parce qu'il concentrait ses efforts sur un autre front parfaitement illégitime, hein, qu'on s'entende bien. Et nous, on doit pas baisser la garde, on doit continuer, à l'image d'un certain nombre de pays qui vivent sous une menace permanente, à considérer qu'on vit sous une menace permanente et qu'on doit riposter tout le temps. Et j'ai le sentiment qu'on s'installe dans une espèce de truc en disant bon, c'est presque normal de vivre sous la menace terroriste. Non, non, non. Il y en a un qui nous menace, bim, on lui rentre dans le lard.
Ouais, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça.
Je dis pas que c'est simple.
C'est parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, et dites-le moi au 32-16 si ça vous fait réfléchir, d'ailleurs, pour ce match ce soir au Parc des Princes ou pour aller au stade d'une manière générale, mais la première des peurs, elle passe par le message que tu envoies, la crainte que tu inspires. Tu vois, depuis hier, je te dis, moi, ce SMS que j'ai reçu, en me disant tu y vas au stade avec trois points d'interrogation. Donc, ça prouve bien que même une personne qui a plusieurs centaines de kilomètres de toi, qui n'est pas du tout concernée par Parc des Princes, tu vois, la peur, la crainte, elle est là, elle infuse toujours. Et tu te dis, si mon pote il va au stade, ou si moi, est-ce que moi j'irai? Parce que pourquoi est-ce que ça se passerait à Paris? Les attentats, malheureusement, on en a eu dans pas mal de villes de France aujourd'hui, cible... à des degrés variés, divers et variés d'ailleurs. L'attentat de Nice en fait aussi, l'assassinat d'un prêtre. On a le Trèbe avec le Super U, dans des endroits où franchement tu t'y attends pas non plus, parce que tu peux cibler le Parc des Princes, mais tu peux aussi cibler un bistrot à la campagne ou autre, quoi.
On a besoin de quelqu'un qui dise on va terroriser les terroristes, c'est-à-dire que celui qui celui qui aimait l'idée d'un attentat terroriste doit se prendre une claque, un retour.
D'accord, mais comment tu vas les retrouver, là, ceux d'Al-Qaïda au Khorasan, là, entre le Tadjikistan et autres? Puisque le message, il vient d'eux. C'est plutôt de savoir si on surveille bien ceux qui pourraient être touchés par ces messages et passer à l'action. C'est vrai que c'est.
Mais après, sur le renseignement intérieur, même si on a eu quelques attentats, j'ai l'impression qu'on se débrouille pas trop mal, quand même. C'est vrai qu'on a eu des attentats traumatisants, notamment sur les deux professeurs, mais j'ai quand même l'impression qu'on se débrouille pas trop mal. Donc c'est vrai que j'ai pas le sentiment que l'État ne fait rien sur le point intérieur. Je suis plutôt comme Antoine, c'est sur le point extérieur que j'ai un questionnement, parce que depuis le départ de François Hollande, on n'a pas réellement et puis le départ du Mali, etc. On n'a plus réellement cette vision de qu'est-ce qui se passe à l'extérieur sur la lutte antiterroriste, tu vois.
C'est pas pour ça qu'il se passe rien.
Non, oui, bien sûr, mais avant on avait quand même un...
Ouais, mais regarde, plus on va avancer, plus on va aller vers les Jeux Olympiques. Les messages d'appel à la haine, d'appel aux attentats vont se multiplier. Plus le gouvernement va devoir y répondre. En plus aussi en disant, écoutez, nous prenons toutes les précautions, on est en alerte vigilance. Voilà aussi, regarde là, tu vois, on va avoir pour des périmètres, on va devoir pour les riverains avoir des QR codes pour pouvoir passer, etc. Donc plus on va avancer, plus on va être de nouveau dans ce climat hyper anxiogène, hyper angoissant.
C'est surtout ça.
Et de peur. Ouais, et finalement, de la peur, tu vas aller vers quoi? Vers cette terreur, ce climat qui va s'installer. Et le terrorisme, il passe déjà par ça. Quel climat tu installes? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu instilles dans la tête et dans les pensées des gens, quoi? C'est ça le problème. Et ça, c'est déjà une victoire si on arrête de vivre normalement, si on se freine dans nos envies de sortie, nos envies de déplacement ou d'organisation d'événements, quoi.
Non, mais de toute façon.
On l'a dit après Moscou, on avait un peu oublié aussi.
Moi, je peux pas dire que je vis totalement normalement. Enfin, en tout cas, que mes réflexes sont ceux que j'avais avant les attentats de 2015. Enfin, au plus bas de ma vigilance, j'ai développé des réflexes d'attention, d'observation, d'essayer de discerner.
Tu penses que ça va te protéger ?
Non, je dis pas, mais je veux dire que je suis jamais revenue à ce que c'était avant 2015, tu vois. Donc, je ne vois pas tout d'un coup se dire, bon, on doit vivre normalement. Et en plus, bon, ce qui me rassure un peu, c'est que je pense qu'on a vraiment intérêt à ce que tout se passe bien, parce qu'on va être vraiment sous le regard, avec les JO, et qu'on n'a pas du tout envie, en fait, que ça nous arrive, qu'un attentat de ce type, enfin, un gros attentat nous arrive sur le sol français. Donc, j'imagine que Monsieur Darmanin et toute la sécurité ont tout fait pour justement qu'on n'ait pas ce genre de mauvaise publicité, pardon.
Et tu vois, sur ce que tu décris, Alain, l'opinion publique et le climat qui s'instaure, je m'interroge sur la proposition d'Antoine. Est-ce que s'il y avait un mirage qui décollait et puis qui allait balancer 2-3 bombes au fin fond des montagnes du Tadjikistan, est-ce que ça enlèverait de la pression aux Français? Non, je crois pas.
Non, bien sûr que non.
Je dis pas qu'il faut pas le faire. Je crois que ça changera rien sur le climat qu'ils sont en train d'instaurer autour des JO.
Ce qui m'ennuie, c'est le côté on se barricade, quoi. On est menacé. Et au lieu de riposter en bombant le torse et en disant ouais, il y en a qui nous menacent, on va venir vous buter jusqu'au fond de votre grotte, et ben on dit alors on va mettre en place des mesures, etc. Oui. Je trouve pas que ce soit suffisamment puissant.
Quel est le dernier président qui avait dit j'irai vous tuer jusque dans les chiottes?
Je crois que c'est Poutine, tu penses à...
C'est Vladimir Poutine. Il l'avait dit texto, hein. J'irai vous tuer.
Il a de la chance qu'il n'était pas dans le chiotte de l'opéra, lui. Hein.
Ouais. Allez, dans un instant, avec les GG, avec les grandes gueules, on va parler des citadins qui s'installent à la campagne. Est-ce que ce sont les nouveaux emmerdeurs? Est-ce que c'est le cauchemar des campagnards, ces citadins qui s'installent à la campagne? Vous savez pourquoi? On a été obligé de légiférer pour empêcher de porter plainte citadins portent plainte contre ce qu'ils appellent, eux, les nuisances alentours, c'est-à-dire le bruit de la ferme ou le bruit des animaux. Allez, 32-16 pour en parler avec les grandes gueules.
RMC, 9h30, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story. On discute, on débat avec vous, bien sûr, au 32-16, avec vous tout à l'heure à 11h20, avec ce chiffre sur la lecture, les jeunes qui lisent de moins en moins, ils sont de plus en plus sur les écrans, de moins en moins sur les livres. Est-ce que c'est la faute aux écrans, vraiment, ou est-ce que c'est aussi la faute aux parents, parce qu'il faut inciter à lire? 32-16 pour en parler tout à l'heure à 11h20 avec notre GG 7 et match dans un quart d'heure. Marine Le Pen, hier à l'Assemblée nationale, estime que chaque jour, davantage, la France tombe dans la barbarie avec les derniers faits divers que l'on a eus avec Samara, avec Chemchedi. On a un jeune qui a été poignardé à mort, j'ai vu à Romans-sur-Isère hier d'un coup de couteau, et ça concerne les ados. La France tombe dans la barbarie, sombre dans la barbarie, dit Marine Le Pen. Antoine est d'accord, Antoine dit oui, elle a raison, non pour Joël et pour Didier. Vous venez en débattre avec nous, bien sûr, donc au 32-16. Mais d'abord, parlons de ceux qui sont en train de devenir le cauchemar de la campagne des agriculteurs. C'est ce que l'on appelle les néo-ruraux, c'est-à-dire les gens de la ville qui s'installent dans la verdure.
RMC, les grandes gueules.
Non mais ce qui est dingue dans cette histoire, c'est qu'on soit obligé d'en passer par la loi. C'est ça qui est fou quand même. En fait, depuis 1986, il y avait un principe général du droit selon lequel nul ne pouvait causer, écoutez bien, nul ne pouvait causer à autrui un trouble anormal de voisinage. D'accord? Et c'est ainsi...
Ça, c'est le code civil Napoléon.
Et c'est ainsi que bon nombre de personnes qui se sont installées à la campagne se sont retrouvées à porter plainte contre des coqs qui chantent tôt le matin, contre des odeurs qui viennent d'agriculteurs, contre des bruits de tracteurs, contre des élevages aussi qui font du bruit. Et donc, si vous voulez, fort de la justice qui s'est retrouvée face à ces litiges à trancher, eh bien voilà la loi sur le voisinage, le texte qui a été proposé par une députée du Morbihan. Et maintenant, il encadre mieux les conflits entre ce qu'on appelle les nouveaux arrivants dans le monde rural et les agriculteurs. On ne peut plus porter plainte parce que, notamment, ça sent fort. Alors, est-ce que les néo-ruraux, ceux qui s'installent à la campagne, sont devenus le cauchemar des vrais habitants des zones rurales? 32-16 pour en parler avec les grandes gueules. Monsieur Didier Giraud.
Écoute, le phénomène a une bonne quinzaine d'années. Je pense qu'il est lié aussi un phénomène d'individualisation de la société où tu vis pour toi-même, tu supportes plus rien. Et je pense que les conflits de voisinage, ils sont pas qu'avec les ruraux, quoi. Ils existent partout en France, les conflits de voisinage. Mmh. Je pense que les tribunaux en gèrent de plus en plus. Après, il y a un des grands principes qui, à mon avis, est essentiel, et c'est pour ça qu'il fallait en passer par la loi. C'est le droit d'antériorité, quoi. En gros, tu viens t'installer, il y a un élevage, il y a un tracteur qui tourne à
un voisin ne pourra plus se plaindre des nuisances qui préexistent à son aménagement.
C'est le lien d'antériorité. Si tu achètes une baraque à côté d'un élevage, à un moment donné, les nuisances qui sont liées à l'élevage, tu fais le choix de les accepter ou pas. Ça posera un autre problème. Ça veut dire qu'on va dans certaines zones rurales, les animaux, les élevages sont à l'intérieur des bourgs. T'as pas d'habitat dispersé. Ça posera quand même le problème dans ces zones-là. Comment on fait pour construire de nouveaux élevages? Puisque le droit d'antériorité fera que un mec qui vient s'installer à la campagne pourra plus se plaindre des nuisances, mais un agriculteur pourra plus construire à proximité de
s'il veut s'étendre ou étendre son exploitation, par exemple.
C'est une des vraies
vraie problématique qui peut y avoir, alors c'est surtout sur l'élevage, hein, même si le phénomène existe dans les zones céréalières au moment des moissons, par exemple, mmh. où une moissonneuse-batteuse qui tourne dans une zone périurbaine, ça fera un bruit phénoménal pendant toute la nuit.
Ouais, mais alors,
ça nécessite d'être toute la nuit. Mais aujourd'hui, tu veux construire un élevage ou un bâtiment pour mettre des vaches, il faut que tu te mettes à 300 mètres d'une habitation ou à 100 mètres suivant la taille, mais entre 100 et 300 mètres. N'importe quel Pékin peut venir construire une baraque en limite de propriété, y compris si c'est des vaches, quoi. Hein. Et ça pose quand même un vrai problème. C'est où est-ce qu'on va devoir mettre, je le répète, en zone d'habitat regroupé, où est-ce qu'on va devoir mettre les élevages demain, quoi. Hein. Je pense à tous mes collègues du Doubs, par exemple. Le Doubs est une région où les vaches étaient à l'intérieur du bourg. Je pense chez toi, dans le nord de la France, dans l'Avémois, voilà, où les vaches étaient à l'intérieur du bourg. Ça pose un vrai problème aujourd'hui pour développer un élevage, pour construire un bâtiment agricole. Mais au moins ce droit d'antériorité fait que ça protège les gens de l'existant, quoi. Même si le phénomène il est global à la société de plus supporter son voisin, ça devenait quand même insupportable qu'on puisse aller porter plainte pour le chant du coq. Pour moi, je connais des cas où les gens ils ont été portés plainte parce qu'il y avait des mouches, quoi.
C'est pas vrai.
Des mouches, bah oui, parce que les mouches c'est quand même
avec les vaches, avec les troupeaux, quoi.
Avec les troupeaux, voir s'il y a une activité laitière, l'activité de transformation laitière.
Ils ont porté plainte. Ils sont allés au tribunal.
Des mouches, quoi.
Ben, j'espère que le magistrat les a envoyés bouler.
En même temps, les tribunaux ont quand même rarement condamné les agriculteurs quand ils faisaient les choses dans les règles, quoi. Voilà.
Joël, c'est ce qu'il faut dire. Joël.
Non, mais tu sais, quand j'étais jeune, il y avait pas mal de conflits de voisinage. Moi, je me rappelle, il y avait toujours un voisin qui disait ça fait trop de bruit, machin. Et en grandissant, j'ai trouvé que ça avait disparu. Je suis beaucoup moins confrontée à ça. Et je pensais qu'on s'était civilisés, mais en fait, non. Ils ont déménagé. Et c'est ça, ils ont.
Le con a déménagé, oui, c'est ce que tu veux dire.
Le con a déménagé.
Le con a déménagé à la campagne.
Ça répond à ma question. Je me disais, mais c'est fou parce que je m'entends bien avec mes voisins depuis certaines années. Il n'y a plus ça. Alors que quand j'étais jeune, je trouvais qu'elle avait beaucoup plus. Et en fait, il est à la campagne. Et
le con a déménagé chez Giraud. Tant pis,
Odette.
Tant pis,
non, mais même dans mes anciens quartiers, ça n'existait quasiment plus. Donc, ils sont partis. Notamment avec le Covid, il y en a plein qui sont partis. Et je crois qu'en fait, c'est parce que nous, en tant que citadins, on a une très mauvaise imagination de ce qu'est la campagne. Parce que c'est toujours, moi je vais aller me mettre au vert, je vais être tranquille, j'en ai marre du bruit des bagnoles, des klaxons et tout. Je vais aller à la campagne. Parce qu'on imagine que là-bas, il n'y a aucun bruit, il y a juste les oiseaux qui chantent, etc. Alors qu'il y a une activité en fait dans la ruralité. Et on s'est fait une très mauvaise idée. Et du coup, tu as cette déception qui vient. Et t'as le con qui reprend un peu de sa nature et qui va porter plainte. Et cette loi, elle est bien faite. Je trouve qu'elle est bien parce qu'on doit limiter le con.
On est obligé de passer par la loi pour empêcher le crétin.
Mais ça protège l'existant, quoi.
Bah oui, mais parce que
ça ne résout pas tout. C'est ce que tu dis. Parce que ça protège l'existant, l'antérieur. Mais celui qui veut s'étendre ou
celui qui veut atteindre un bâtiment, il doit s'écarter dans certains cas.
Monsieur Antoine Dierce.
Tu l'as un petit peu dit, Didier, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, mais tu as dit aussi à partir du moment où l'agriculteur respecte les normes, etc. Parce que moi, je suis un urbain, je rêve de vivre un jour à la campagne, j'adore la campagne, mais il y a quand même des endroits à la campagne où il y a des agriculteurs qui laissent la carcasse de tracteur dans un coin, c'est pas entretenu.
Alors la pollution visuelle, c'est encore pas arrivé, mais alors, si t'en es là, c'est grave, quoi. Hein.
Non, je suis très sérieux, Didier. Je pense qu'aussi à la campagne, certains n'ont pas de vision esthétique ou ne mettent pas en œuvre ce qui pourrait limiter certaines nuisances inutiles. Je ne mets pas du côté du chieur qui gueule pour le chant du coq, mais j'ai vu certains paysages de campagne assez dégradés par des agriculteurs un peu
indélicats.
Voilà.
Non, mais t'as raison, ça existe.
Les deux
coexistent. Après, ce qu'il faut dire, c'est que ces comportements de porter plainte pour le chant du coq, les nuisances olfactives, sonores et tout ce que tu veux, ça a aussi entraîné un train de mesures qui font que ce que faisait mon grand-père à l'intérieur du village, aujourd'hui, c'est interdit. Quoi. Ouais.
Il y a eu de l'assainissement, c'est ce que tu veux dire.
Ouais, oui. Enfin, sauf que quand on dit on en a marre de la suradministration, ça compte dans la suradministration. Parce qu'aujourd'hui, considérer que n'importe qui peut construire sa maison au ras de ton élevage, mais toi, t'as pas le droit de construire ton élevage au ras de sa maison, c'est quand même une injustice qui est assez mal vécue. Quoi.
Ouais, je suis d'accord avec toi.
Nous sommes avec.
Et si ton bâtiment, il a 7 vaches, ou il a 70 vaches, ou il a 700 vaches, eh ben, faut que tu t'éloignes de plus en plus, quoi. Okay. Et ça, c'est quand même une vraie problématique. D'autant que certains qui veulent, avoir de grosses élevages ont tendance à se reculer, à dire, on va faire un méga truc.
Oui, d'accord.
Loin, et là, tu te chopes, tu te chopes un comité d'écolo qui disent, la ferme des villes vaches, on n'en veut pas. Quoi.
C'est pas au néo-rural, sur qui il faut tomber aussi. C'est aussi parce qu'on lui a vendu le terrain. S'il a fait construire, tu vois, parce qu'après il y a de la responsabilité.
Quand les Basques crient qu'ils peuvent plus acheter une maison chez eux, c'est aussi parce qu'il y a des Basques qui vendent des maisons à des Parisiens, quoi. Hein. C'est évident. Hein.
Alors nous sommes avec Romain qui est agriculteur, qui nous appelle de Charente. Bonjour Romain.
Oui, bonjour les grandes.
Vous nous appelez d'où en Charente précisément?
À côté d'Angoulême.
D'accord. Voilà, moi,
je suis céréalier, je suis installé depuis 18 ans. Et on voit une dégradation quand même d'année en année des riverains qui constamment portent plainte, que ce soit au maire de ma commune ou en gendarmerie, avec des pots de main courante sur le bruit, poussière, travail du week-end, et c'est récurrent et ça commence à être un petit peu pénible.
Mais là, parce que vous le vivez personnellement, Romain?
Quand la fenêtre de tir de travail est assez restreinte, quand le maire de la commune vous appelle, vous dites de sortir du champ avec votre tracteur parce qu'on fait du bruit ou parce qu'il y a de la poussière, c'est un petit peu énervant à force. Là, j'ai mon associé, moi, qui a pris un coup de boule cet hiver pendant les périodes de semis. 3 jours d'ITT, à force,
prendre
des mains courantes. À cause du bruit, de la poussière un dimanche après-midi. Alors on essaie de travailler intelligemment, on essaie d'y aller entre midi et deux au bord de maison pendant que les gens puissent manger tranquillement. Oui. Le soir, on attaque les chantiers proches des maisons et on s'éloigne au fil de, plus le temps avance, plus on essaie de travailler loin des maisons, que ce soit des moissons, des semis ou travaux du sol, pour justement éviter d'embêter les riverains, quoi.
Mais justement, attendez, ceux qui portent plainte, ce sont des gens qui sont installés récemment à la campagne.
J'ai les deux. Il y en a qui sont installés récemment en campagne dû au Covid. Ils ont acheté des maisons de rénovation de maisons au bord de l'activité de travail. Et puis il y a aussi maintenant des riverains qui sont ancrés depuis une vingtaine, trentaine d'années.
Qui acceptaient les choses il y a 20 ans et qui les acceptent plus aujourd'hui.
Voilà, comme dit, c'est ça exactement, ça fait boule de neige.
Et ça, le principe même, d'antériorité, ça vous protège pas, ça.
Tout à fait. Et même parfois des familles agricoles, parce que dans les campagnes, dans les villages, on est tous de familles agriculteurs. Et même de parler de familles agriculteurs, ça commence à être récurrent. Donc c'est inquiétant parce qu'aujourd'hui, comme je dis, mon associé, lui, s'est pris un coup de boule, donc aujourd'hui c'est un coup de boule, mais moi j'ai un village où une personne qui a un souci avec l'alcool, moi c'est des menaces de mort de me tuer avec un fusil, moi quand j'ai mon gamin dans mon tracteur, je peux aussi le truillomètre à zéro, quand on fait des moissons le soir, on se dit qu'est-ce qui va se passer ce soir.
Bon, enfin de là aller à 7 à 10 plaintes par an, juste pour des nuisances qui sont liées à votre travail ou à l'environnement agricole, faut quand même le faire.
Les gendarmes, ils m'appellent, ils se déplacent pas. Alors c'est même arrivé année en période de récolte de paille où mon entrepreneur, a été sorti par les gendarmes à 22h le soir. Pour nuisance sonore en période de récolte. Enfin, il y a un moment donné, il faut savoir qui met à bouffer dans nos gamelles, quoi. Alors, je vais même aller au-delà, parce qu'aujourd'hui, là, c'est pas les campagnes, mais aujourd'hui, c'est que, dans les instances des écoles. Moi, je prends l'école de mon fils, par exemple. Aujourd'hui, on retrouve ces gens-là, dans les parents d'élèves. Donc, aujourd'hui, on se retrouve maintenant, bientôt, on va avoir des repas sans viande. Et ils vont aller faire leurs besoins avec une poignée de copeaux au fond de la classe, au fond de la cour, quoi. Mmh. Aujourd'hui, on est arrivé là.
C'est ceux qui étaient à la ville, qui avaient de grandes aspirations écologistes et qui essaient de
les appliquer.
Voilà, de les appliquer ou de faire de leur modèle d'écolo urbain l'écolo campagnard.
Voilà. Et le souci maintenant dans le
cycle de mon en carton.
Deux, on commence à en parler de plus en plus de ces écologistes. Alors moi, je lui pose la question à mon fils, est-ce qu'on dit du mal sur les agriculteurs? Parce qu'aujourd'hui, les enfants entre eux, il y a un degré de violence, et je crois que c'est le sujet là qui va taper. Il y a une violence entre les, que ce soit verbale ou physique, entre les enfants. Et moi, j'ai peur qu'un jour les enfants agriculteurs soient pointés du doigt.
Dites donc, ça fait bon vivre maintenant à la campagne.
Romain, vous êtes dans une région où on a beaucoup travaillé pour votre image du temps de la précédente présidente de région.
Ouais, non,
c'était Madame Ségolène Royal.
Non, mais ça aussi, hein.
Ce que nous dit Romain, c'est qu'en
contexte,
fait, les gens s'installent à la campagne, mais avec les codes de la ville.
Ouais, c'est ça.
C'est ça le problème. C'est on arrive. Et on veut imposer notre mode de vie. C'est-à-dire, on veut la campagne, mais sans ses mauvais côtés. C'est-à-dire, c'est comme si toi, tu disais, je quitte la campagne, je viens à la ville, mais je veux pas trop de bruit, je veux pas trop de voitures, et puis je veux pas de pollution. Enfin,
non, mais ça, c'est possible, mais tu choisis ta campagne, quoi. Hein. Ouais. Tu vas te mettre au fin fond des Vosges, dans une maison isolée au milieu des bois, et puis tu l'as, ton aspiration.
Je remercie Romain, je remercie d'avoir été avec nous.
Tu prends ta bagnole, et puis tu fais 7 kilomètres pour trouver une baguette de pain. Parce que c'est aussi ça le problème, hein, c'est qu'ils sont quand même en périphérie des bourgs aussi, ces gens-là. Hein.
Ouais, merci Romain d'avoir été dans les jeux. Vous vouliez ajouter quelque chose, allez-y, pardon.
Ouais, non, mais je disais, bon, enfin, même, bon, moi, des fois, le calendrier est assez serré, donc, bah, même la tonte de la pelouse, si j'ai jetons entre midi et deux, hein, quand on n'a pas trop le temps, où les enfants sont pas là, alors là, je vous raconte pas, moi, c'est pareil, là, le maire, là, je sais très bien qu'il me téléphone, je sais pourquoi quand jetons entre midi et deux, hein.
Oui, mais là, on pionce, Romain, quand même, vous exagérez, quoi, c'est l'heure de la sieste.
Non. Alors le week-end, je vais bien entendre, en semaine, excusez-moi.
Voilà. Non mais pas à l'apéro et pas après le café quand on a le petit coup de barre d'après le café quand même, Romain, mince.
Bah oui mais vaut mieux entendre une tondeuse que d'avoir un avion qui décolle toutes les 5 minutes au-dessus de tête. Hein. Donc
on est d'accord. Je vous remercie Romain. Je vous remercie d'avoir été avec. Vous voulez ajouter quelque chose ou Joël ou Antoine? Parce que je voulais écouter Romain attentivement.
Oui non mais en fait c'est qu'il n'y a pas de situation parfaite. Je pense que quand on déménage parce qu'on veut aller vers quelque chose de l'ordre de la perfection, mais comme je le dis souvent, on choisit ses emmerdes. Donc, si tu quittes la ville, tu quittes des emmerdes, t'en retrouves d'autres, et il faut te dire, bah, je préfère celle-là plutôt que d'autres, et faire avec.
Alors, le néo-ruraux, est-ce que c'est le cauchemar des campagnes? On a l'exemple de Romain en Charente, c'était quand même assez édifiant. 7 à 10 plaintes dans l'année, quand même, l'ami Romain. Alors, qu'est-ce que vous en dites? On l'affiche. Est-ce que c'est le cauchemar des campagnes? D'accord. Oui, d'accord à 89,3%. On est même.
C'est l'anti-parisianisme primaire, ça. Non, tu vois, il y a des régions qui sont plus exposées. Ça, j'ai remarqué quand j'étais au GIA, entre autres chez Romain, là, les Charentes-Maritimes. Et puis, t'as à l'autre côté la Savoie, tout ça, les premières affaires de coq, c'était en Savoie.
Allez, dans un instant, est-ce que la France sombre chaque jour davantage dans la barbarie? C'est ce que dit Marine Le Pen. Elle a raison pour Antoine Dierce. Pas d'accord, disent Joël et Didier. Et on vous attend au 32-16.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story. Vous avez les podcasts à votre disposition. La première heure des GG déjà passée, vous pouvez la rattraper sur notre application RMC ou bien sur le site internet rmc.fr. Les podcasts, c'est la session de rattrapage. Et puis vous avez tous les petits à côté, les petites anecdotes que pendant la pub, les grandes gueules racontent à notre productrice Anaïs Sainz. C'est parfois, c'est pas piquer des vers ou des hannetons. Vous choisissez votre insecte, votre animal. Parlons maintenant de ce qu'a dit Marine Le Pen hier à l'Assemblée nationale.
RMC.
GG, 7 et match.
Avec l'enchaînement des faits divers à différents degrés de dramaturgie, Marine Le Pen estime que la France sombre aujourd'hui dans une situation dont il faut vraiment se sortir. Marine Le Pen estime que c'est de la barbarie.
Une enfant de 13 ans violée à mort, un jeune garçon lynché pour des raisons abjectes, une pharmacienne assassinée en Guyane. Les drames auxquels nous assistons partout et tous les jours ne sont plus des faits divers, mais des faits de société. Des faits atroces dans une société qui sombre chaque jour davantage dans la barbarie. Ce droit au tabassage, ce droit de vie ou de mort, ces agressions impulsives, souvent gratuites, interviennent sur fond de sexisme, d'intégrisme religieux, de racisme, de partage mafieux de territoire, de volonté de semer la terreur. La République ne peut tolérer cela.
Alors, est-ce qu'elle a raison, Marine Le Pen? C'est le terme qu'elle emploie à la France. La société sombre chaque jour davantage dans la barbarie. Oui pour Antoine Dierce, non pour Didier et Joël. Vous venez en parler avec nous au 32-16, mon cher Antoine. C'est toi qui as les 60 secondes. Vas-y.
Je pense que Marine Le Pen a raison. Elle a déjà raison sur la forme. Vous l'avez vu, Marine Le Pen a dit les choses de manière extrêmement calme à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre lui a répondu de manière extrêmement calme. Marine Le Pen, aujourd'hui, parvient à décrire le réel de notre pays sans que les gens en face disent « mais quelle horreur, ce qu'elle dit n'est pas vrai, etc. » Non, aujourd'hui, c'est la réalité. Ensuite, sur l'utilisation du terme « barbarie ». Oui, la barbarie, c'est le contraire de la civilisation. La barbarie, c'est les barbares, ce sont ceux qui ont fait chuter les empires romains et grecs venus de l'étranger, qui ne partageaient pas les mêmes codes. Eh bien moi, je vais un peu plus loin que Marine Le Pen. Je pense vraiment que l'immigration a une part importante de responsabilité dans cette barbarie qui envahit notre pays. Oui, je le dis, et c'est démontré, les étrangers et les Français d'origine étrangère ont une part plus importante que les autres dans ces crimes barbares, les fameux crimes d'honneur, etc. Et donc je pense qu'il est urgent pour notre pays de redresser la barre et de lutter contre cette barbarie si on veut rester la France.
Réponse du camp d'en face, Joël.
C'est sûr que si on fait comme Marine Le Pen et qu'on égrène tous les faits dramatiques sur tous ces derniers temps et qu'on ne fait que ça, effectivement, on a une vision de la France où nous sommes devenus une société barbare. Malheureusement pour elle, la France c'est pas que ça. Bon, je veux dire, heureusement pour nous, la France c'est pas que ça. Il y a de ça effectivement. Et pourquoi je rejoins absolument pas cette vision ? Parce que je rejoins pas les solutions qui vont avec, c'est-à-dire qu'on va être sur des solutions pour que la France aille mieux, qui ne vont se baser que sur la sécurité, sur l'autoritarisme, alors qu'en fait...
Et
l'immigration, alors que notre société, elle est bien plus malade que ça, bien plus largement malade que ça, et Marine Le Pen fait un constat de notre société qui est assez étriqué. Alors, effectivement, moi, je rejoins le fait que les derniers faits, et même depuis même quelques années, sont réellement atroces. On a une jeunesse qui est complètement en déshérence. Mais on n'a pas que ça, on a un problème d'ascenseur social qui est complètement cassé. Marine Le Pen n'en parle pas. On a une désillusion des jeunes, et pas que des jeunes, ce qu'on dit racailles, mais même des jeunes éduqués qui ont fait l'école, qui sont complètement désillusionnés de la France et qui ne se projettent pas. La France n'offre plus de projection, excuse-moi, elle n'offre plus d'espoir. Ouais. Et qui disent à la fin de mon diplôme, moi j'irai travailler en Suisse, ou moi j'irai en Espagne, ou moi j'irai en Angleterre, ou moi j'irai aux États-Unis. C'est pas normal. Donc il y a un mal qui ronge la France. C'est sûrement pas la barbarie. Effectivement, on a un problème sécuritaire qu'il faut régler. Mais le fait de définir la société française uniquement sous cet angle-là me fait dire qu'on va avoir un gros problème si le RN est au pouvoir, parce qu'ils vont nous proposer que des solutions qui seront tournées que vers l'immigration et le sécuritaire, alors que je dis qu'on a un problème qui est vraiment plus global en France, qui est économique, qui est social, et que le RN n'y touche absolument pas. Voilà.
Joël, de tout temps, il y a eu des gentils et des méchants, y compris dans la France des années 50, oui, d'avant l'immigration de masse, etc. Sauf que la pègre marseillaise et corse, c'était des délinquants, c'était des criminels, mais ils avaient quand même un minimum de sens commun, un minimum de valeur où on ne fracassait pas quelqu'un au sol, où on ne jetait pas de l'acide au visage d'une femme parce que...
Mais tu es autrement.
Et donc, en fait, ce que je veux te dire, Joël, c'est que je t'entends, mais si tu refuses de dire qu'il y a aujourd'hui un problème plus grand que de la sécurité, lié à des origines et à des cultures qui font que les gens vont bien au-delà de là où ils allaient avant.
Je te dis qu'il y a un problème plus grand que la sécurité. Le problème, c'est que le RN ne nous parle que de sécurité. Et je te dis qu'il y a un problème plus grand que la sécurité et que tu ne pourras pas régler ce problème juste en disant moins d'immigration ou plus d'immigration et de la sécurité. Non, la France, on est malade d'un déclin économique et social, d'un déclin de valeur, d'un manque de vision. Mais non, on ne se projette pas, on n'est pas une nation qui gagne, qui donne envie, on est malade de partout. Et toi, tu me parles uniquement en me disant, oh, mais on a une société de barbares. Et du coup, une réponse qui serait autoritaire et tournée vers l'immigration suffirait à rendre la France beaucoup plus attractive et meilleure.
Le premier mal de notre pays. Honnêtement, les gens qui partent à l'étranger, là, qui émigrent au Canada, en Suisse, etc., j'en ai pas mal autour de moi, ils me disent, non mais attends, on s'en va, parce que on n'est plus en sécurité dans nos rues, et parce que on est trop taxé, etc. C'est les deux aspects des choses. Mais la sécurité, ça revient beaucoup. Et pardon, mais la sécurité, l'insécurité est étroitement liée avec le niveau d'immigration dans notre pays. Les deux sujets sont concomitants. Et donc, le plus simple aujourd'hui, c'est de fermer le robinet de l'immigration et ensuite de rétablir l'autorité et de rentrer dans l'art, comme je disais tout à l'heure, de tous ceux qui ne veulent pas respecter nos valeurs. Tu es un barbare, tu respectes pas nos valeurs, t'es sanctionné.
Mais est-ce qu'on est dans une société de barbarie? La société, elle est plus large que ça, elle est plus large que les faits que Marine Le Pen vient d'énoncer. Est-ce qu'on est dans une société de barbarie?
On voit des faits qu'on ne voyait pas avant. Avant, tu pouvais, il y avait des bagarres, il y avait des risques, mais quand le mec était au sol, tu lui explosais pas le crâne.
Je suis pas sûr de ça.
Ou alors peut-être qu'on le savait pas forcément.
Ben, si, exactement.
Aujourd'hui, je peux développer un argumentaire. Moi, je suis pas d'accord avec le mot barbarie. Parce que la barbarie, la barbarie, elle a eu existé dans notre société. C'était pas ça. La barbarie, tu vas au pied d'un monument aux morts en Haute-Vienne, dans la Creuse ou dans le Morvan, et puis tu regardes la liste de noms de tous les frangins et tous les cousins qui sont morts en 14. Et ça, c'était la barbarie.
C'est exactement la même chose.
Et parler de la barbarie aujourd'hui dans une société où à l'époque il y avait une guerre par génération et on tuait la moitié des jeunes hommes du pays, tu vois. Je trouve que c'est pas le bon terme. Notre société, elle souffre d'un mal. Tu l'as évoqué vaguement, elle souffre d'un problème de relation de la jeunesse à l'autorité. C'est un délitement qui a commencé à partir de mai 68 et on est aujourd'hui 60 ans après et aujourd'hui tu récoltes les fruits de ça. Il y a ça et il y a aussi le fait que moi je suis un grand fan des faits divers, tu vois, des vieux faits divers dans le journal. Aujourd'hui tout est sur la place commune, le moment où ça se passe quoi. Il y avait des meurtres et il y avait plus de meurtres qu'il y en a aujourd'hui dans notre société, des choses atroces, terribles, pour voler 4 sous, oui. Pour aller piquer une pomme ou pour détrousser une vieille. Et je pense que la connaissance de ces faits-là, qui sont sur la place publique, l'instantanéité de l'information, fait que c'est pas du tout la même chose dans la tête des gens qui analysent et qui essaient d'apporter des solutions à cette dite barbarie, parce qu'à mon avis, c'est pas le bon mot.
Quoi. Didier, fracasser une jeune fille, une adolescente, parce qu'elle ne respecte pas bien les codes de l'islam à la sortie
du
collège.
Mais ça, c'est un problème avec l'islamisme, on est d'accord.
C'est de la barbarie, au sens pur.
Mais c'est la société.
C'est l'absence de civilisation. C'est de la barbarie. Marine Le Pen a raison d'utiliser ce terme-là.
Mais la société, non mais elle ne parle pas que de ça. Elle te dit la société française sombre dans la barbarie.
Bah oui. Enfin,
mais alors toi, la société française, ça se résume à l'histoire de Samara et au pauvre Shamseddine qui est oui mais ça se soit tu résumes la en fait ta vision de la société française elle est tournée sur les problèmes que vers là.
Non mais c'est moi tout. Je me souviens aussi de Lola, je me souviens aussi de ce qui s'est passé à Crépol etc.
Exemples, il y en a plein. Après ce qu'il y a aujourd'hui c'est que toi Antoine, t'en loupes zéro des exemples. Ton grand-père, tu vois, il les avait pas les exemples, il voyait pas, il ne savait pas parce que quand il y avait un meurtre à 3 cantons plus loin que chez toi, tu ne savais pas.
Bien sûr que si, tout le monde en parlait, etc.
Bah écoutez,
aujourd'hui, nous, on dit que c'est des faits divers, alors qu'il y en a tellement.
On lançait le débat avec Antoine Diers, avec Joël Dagosséry et Didier Giraud. Antoine dit que Marine Le Pen a raison quand tu as dit que la société française sombre dans la barbarie. Dans un instant, Nicolas de l'Hérault, il sera au 32-16 avec nous pour faire valoir ses arguments. Est-ce qu'Antoine a raison? Est-ce que c'est Didier et Joël? Vous saurez ça dans un instant. Restez avec nous et n'oubliez pas que dans combien maintenant 20 minutes, un gagnant pour aller à l'Europa Park, un gagnant pour un séjour de 2 jours pour 4 personnes à l'Europa Park à 2 pas de Strasbourg, élu 8 fois meilleur parc de loisirs au monde, dans le top 3 des parcs d'attractions les plus visités en Europe. Vous avez vos entrées pour 4, la nuit dans un hôtel 4 étoiles, le petit déjeuner, les accès au parc et les accès au parc aquatique aussi rue Lantica. C'est pour vous, vous pouvez encore m'envoyer RMC par SMS au 732-16, RMC par SMS au 732-16 pour jouer et pour gagner. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules.